Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Est-ce la météo estivale, la joie du déconfinement? Mais il flotte en ce moment dans l'air un doux parfum d'allégresse. Après des semaines d'angoisse à surveiller les chiffres anxiogènes d'Olivier Véran, on a enfin repris le cours de nos vies avec nos projets, nos joies. À mes côtés, celle qui parfois la nuit se réveille en sueur, en hurlant.
Anissé ?
Eva Rock est toujours là. Tout à l'heure,
vous
nous direz ce qu'on regarde. Est-ce qu'on zappe ce soir à la télé sur les écrans?
Oui, quoi?
Vous allez dire à nos auditrices
quoi?
Que vous êtes insensible au charme d'Anissé Mbida?
Bah, non, mais quand ça fait plus. C'est comme vous voyez. Vous, a priori, vous êtes un homme charmant, voilà, qui est très attirant, semble-t-il, quand j'entends mes copines commenter.
Mais il y a un mais.
Mais non, mais je vis avec vous depuis des années. Et Anissé, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez que je.
On est comme
vous...
des frères, en fait.
Voilà, c'est un peu ça.
C'est presque incestueux.
Ouais, exactement.
D'accord.
Exactement.
D'accord, j'entends.
C'est une catastrophe, cette conversation.
C'est une
vous
catastrophe,
voulez pas enchaîner, là
mais j'hésite, on peut continuer si
non,
vous voulez. Non,
non, ça
vous
va aller.
Vous dire autre chose?
Non.
Très bien.
Je vous aime beaucoup.
D'abord, présentons nos deux ultimes concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Deux valeurs sûres de la rédaction d'Europe 1, quoique dans des genres différents. Anne Le Gall, actuellement deuxième du classement général, est plutôt du genre élève modèle première de la classe, qui en plus a cette charité chrétienne d'aider les cancres qui disent n'importe quoi.
Un couple de chats errants non stérilisés peut engendrer, à votre avis, jusqu'à combien de descendants en 4 ans?
18.
20 000 descendants en 4 ans.
Oui, 18 000, c'est ce que je voulais dire, évidemment, Anne Le Gall.
Ouais, bravo.
Donc j'étais pas si loin.
Pas si loin.
Pas si loin. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Cet après-midi, vous nous parlez des capacités étonnantes d'un animal que j'adore, surtout avec une bonne maillot, la langouste.
On va démarrer comme ça. Là, on va parler de la langouste vivante dans son univers.
Ça compte trop sous la dent. Faut qu'elle soit bien cuite.
On connaissait déjà le crissement de la langouste, mais alors des chercheurs viennent de s'apercevoir que c'est un bruit beaucoup plus impressionnant que prévu. On peut en fait l'entendre à plusieurs kilomètres à la ronde. Je vais vous raconter.
Oh, face à vous, Anne, je le disais, une autre valeur sûre de la rédaction d'Europe 1, mais dans un genre différent. Il n'est pas comme vous deuxième, mais 19e du classement général. La faute, bien sûr, à un nombre moindre de participations. Eh oui. Bonjour Jean-Luc Bougeon.
Bonjour Mathieu, merci pour l'introduction, hein, si je peux me permettre.
Vous êtes
19e, c'est nul.
Oui, mais ça fait longtemps, ça fait pas longtemps qu'il est là.
Mais oui, mais sur 20.
Non, et attendez, et puis si on regroupe tous les correspondants, vous êtes premier.
Il est temps de le dire. Jean-Luc, vous êtes notre correspondant à Lyon. La dernière fois, votre sujet avait tellement plu que notre invité Marianne James avait demandé, je cite, à voir votre membrane. Je vous invite à écouter le podcast pour comprendre de quoi il était question. Aujourd'hui, c'est dans un musée que vous avez enquêté, un musée où il s'en passe de belles.
Non, en fait, c'est pas du tout dans un musée.
Bravo Jean-Luc.
Non, c'est au synchrotron à Grenoble, où effectivement on analyse un tableau qui est le tableau bien connu d'Edouard Munch.
Et bien, il vient d'un musée.
Oui, il est au musée d'Oslo.
Et ben
fait.
Voilà.
Je suis pas allé à Oslo, oui. Vous avez raison.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas
les moyens. C'est à Grenoble qu'on est en train de l'analyser et surtout l'analyser pour le sauver parce qu'il est en train de se dégrader. Et des chercheurs grenoblois et des chercheurs italiens en tandem sont en train d'essayer de le sauver, ce tableau qu'on ne peut plus voir actuellement parce qu'il se dégrade.
Alors, les mystères d'un tableau qui semble souffrir autant que le personnage peint dessus, ou bien les secrets étonnants de la langouste cuite ou crue, on verra. Quel sujet préférez-vous? Vous avez jusqu'à 18h pour voter via Twitter. Eva, pour l'instant, c'est l'heure de vous mettre au platine pour le mix.
Exactement, avec Sébastien Bordonnave, on a encore repéré quelques pépites sur les réseaux sociaux. Au programme aujourd'hui, l'humoriste urbain qui revient sur les derniers rebondissements judiciaires de Patrick Balkany pour le site Topito. Sublime version de Mistral gagnant trouvée sur la page Facebook Corsica Il Magique. Vous allez entendre ça. Groland qui a enfin sa chanson Hommage pour les infirmières. Et on commence avec Jean-Louis Aubert qui n'arrête pas de chanter et notamment une reprise d'une des plus belles chansons françaises, Le Sud de Nino Ferrer.
Ressemble à la Louisiane, à l'Italie.
Imaginez la série qu'on va faire autour de Balkany. Il y a lui, sa femme, des villas aux quatre coins du monde, ses enfants, des détournements d'argent. Netflix a déjà acheté les droits, c'est sûr. Alors que bon, sur un mer honnête, la série, elle est nulle. Bonjour, je m'appelle Didier Croville. J'aime mes concitoyens et je ne les ai jamais trahis. Même France 3 veut pas les droits.
Bonjour, c'est Francis Kunz. Cette nuit, j'ai composé une chanson pour rendre hommage aux infirmières et à tous ceux qui nous aident à vivre cette guerre contre le Covid-19. Romain le pangolin est un petit cochon. Le soir, il va en boîte se taper des pompes à soie. C'est au New Ibiza qu'il a connu sa femme. Une chauve-souris plombée qu'il l'a bien attrapée. Mais maintenant, c'est nous qu'on l'a.
C'était Groland qui a fait sa chanson Hommage aux infirmières. Et juste avant, donc, vous avez bien entendu la version sublime de Mistral Gagnant par un groupe que je ne connais absolument pas, qui a fait ça. C'est un groupe corse.
Ah oui.
Et c'était donc enregistré à distance, hein, puisque c'est toujours dans le cadre du confinement, déconfinement. Voilà.
Merci pour ce mix et merci à Sébastien Bordena. Vous aimez l'art moderne, mais vous aimez aussi la langouste. Je ne voudrais pas vanter, mais je crois que vous êtes au bon endroit.
Europe 1.
L'info est tombée dans la matinée, c'est énorme. Ça y est, les chercheurs ont trouvé. Ils ont mis le temps, mais ils ont trouvé. Alors, pas le vaccin contre le Covid, mais ils ont trouvé que les langoustes rouges rappaient leurs antennes et étaient ainsi capables de se faire entendre à plusieurs kilomètres. Ouais, on dit comme ça, on s'en fout, mais vous allez voir, Eva, c'est beaucoup plus passionnant qu'on pourrait le croire.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Heures, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Qui a dit que les écolos n'étaient pas rigolos? Anne Le Gall, notre expert environnement, nous démontre jour après jour qu'une vraie conscience écologique n'est pas incompatible avec un sacré sens de la déconne. Ah, ça oui, pour rigoler, Anne n'est pas la dernière.
Lequel est un vrai pivert? Celui-ci? Ou alors celui-ci?
Vous n'aviez pas la bonne réponse.
Mais heureusement, les chercheurs, eux, bossent. Et parfois, ils trouvent. Expliquez-nous, Anne, ce qui s'est passé à Brest, à part qu'il a plu.
Oh là là. Mais non, et Brest, en plus, a été l'une des zones les plus ensoleillées récemment, là, pendant le printemps.
C'est vrai?
Ah, mais absolument.
Il ne pleut jamais en Bretagne.
Comme quoi, la route tourne.
Voilà, c'est voilà. Tout à fait objectif comme jugement. Voilà, mais on va parler de la langouste parce qu'on pensait qu'elle était silencieuse. Enfin, on aurait pu naturellement penser qu'elle était silencieuse, mais en fait, elle stridule. Elle rappe en frottant ses antennes. Exactement. Et les scientifiques pensent que c'est pour signaler sa présence ou pour prévenir ses congénères d'un danger. Les bioacousticiens ont pu, depuis plusieurs années, donc capter cet appel de la langouste. Et il faut savoir que ce bruit de la langouste...
Mais ça s'est amplifié.
Et, bien sûr. Mais voilà,
oui, moi, j'ai déjà eu de la langouste entre les mains.
Peut-être vivante. Voilà, et le bruit de la langouste, en fait, est très différent de celui du homard, parce que lui... Le homard communique avec une autre technique. Il fait vibrer sa carapace avec un muscle sur son corps. On dit qu'il buzz. Ça, c'est le homard.
Ou qu'il flatule. Ouais. C'est au choix, quoi. C'est l'autre
j'avais
terme.
J'avais jamais
plus.
Entendu voilà, des langoustes et des homards.
Vous buzzez beaucoup, vous?
Non, je ne buzz pas beaucoup.
Pas de problème de ce côté-là?
Non, je stridule plutôt.
Ah, vous stridulez.
Ah, oui, voilà. Donc, on retient. Hein, le homard buzz, la langouste te rappe. Et la langouste, c'est beaucoup mieux se faire entendre que le homard, en fait, hein, si on met les deux.
Ah oui, bah nous en tout cas avec une chanson qu'on entend mieux, oui, effectivement la langouste.
Ce que viennent de mesurer des chercheurs de l'Ifremer basés à Brest, c'est qu'on entend ce son de la langouste beaucoup plus qu'on ne le pensait sous la mer. En plaçant des hydrophones, des micros en mer au large du Finistère, Yuen Jezekel et ses collègues ont mesuré que le rap d'une langouste pouvait être entendu jusqu'à 3 km à la ronde quand il n'y a pas de bruit parasite.
Mais à quoi ça sert?
Et ça sert à quoi?
Eh
bien, les chercheurs espèrent que cette découverte déjà permettra de mieux recenser les populations de langoustes rouges qui sont en déclin depuis plusieurs années. Donc ça veut dire qu'en plaçant des hydrophones dans certains périmètres, on peut les surveiller à distance. Et les surveiller, tout comme surveiller les animaux marins en général, c'est pas juste utile pour les recenser, c'est aussi utile pour étudier leurs déplacements. Parce qu'il y a une autre étude parue cette semaine qui montre qu'en raison du réchauffement climatique, les animaux marins ont tendance à déménager, donc pour trouver de la fraîcheur ou pour trouver un environnement plus favorable, et ils bougent beaucoup plus que les animaux terrestres. Il y a donc cette étude franco-américaine qui a été menée sur 12 500 espèces animales et végétales sous l'eau, et on voit que sous l'eau, les espèces se dépassent en moyenne de 6 km à cause du réchauffement climatique, 6 km par an, contre seulement 1 km sur Terre. Alors évidemment, c'est vrai que sur Terre, il y a plus d'obstacles, et puis il y a l'urbanisation aussi qui peut empêcher les déplacements. Alors pour finir, je vous propose un petit quiz de cris d'animaux marins.
Ah oui, on va être mieux.
Voilà,
encore,
vous
hein.
Écoutez. Allez-y. Et vous essayez de deviner de quel animal il s'agit.
Ça, c'est la Mathieu Noël bleu.
Non.
L'éléphant.
L'éléphant de mer, non, c'est pas l'éléphant de mer. Hein.
Et vous dites
non,
quoi,
la baleine.
Voilà, la baleine.
Comment ça, la baleine?
Oui,
bah
oui,
on
ça,
la baleine.
Mais on l'a entendu tout à l'heure en même temps,
ah,
non?
Ah putain, c'est vrai. Ouais. Pardon, de la guerre. Quand je perds.
La baleine boréale qui peut, rappelez-vous, chanter 184 mélodies différentes. C'est merveilleux.
Comme moi.
Alors,
certains disent même qu'elle peut aller jusqu'à 187.
Ouais, 188, ouais.
Hein, mais
en plus, il y a les accents régionaux. Donc, peut-être. C'est vrai, il y a les accents régionaux. Alors maintenant, deuxième son.
Eva, Eva qui se noie dans un pédiluve.
Non, ce n'est pas un fauteuil qui grince.
C'est un phoque ou un truc comme ça, là, non?
C'est pas un... c'est plus gros que ça, c'est le clic du cachalot.
Ah, c'est un cachalot, ça? Ah, bah, il nous met la musique de foirage, là, derrière.
Bah oui, parce que c'est un foirage.
Oui, c'est un foirage, ouais. C'est le clic du cachalot qui peut atteindre jusqu'à 230 décibels. C'est plus fort qu'un avion au décollage.
Ouais.
Donc, on pourrait rajouter à ce panorama un bruit de bateau, parce que les bruits de moteurs, de sonars sont omniprésents sous l'eau et ça pose un problème de communication et de reproduction pour ces pour de nombreux animaux marins. Il faut savoir que le trafic maritime aujourd'hui, c'est 89%... le trafic recouvre aujourd'hui 89% des bruits sous-marins, selon une étude menée l'année dernière en Californie. C'était seulement 31% il y a 50 ans. Donc, c'est vous montrer à quel point cette pollution sonore est importante.
Merci beaucoup Anne Le Gall. Un dernier mot peut-être à l'attention de toutes les petites langoustes qui nous écoutent.
Bisous, bisous.
Bisous à vous aussi les langoustes. Elle est pour moi plus qu'une co-animatrice, une boussole, un phare dans la nuit. Surtout quand on parle des programmes télé, domaine dans lequel je ne suis pas d'une compétence folle. Disons que j'ai souvent quelques années de retard. Bon, ça c'est sur France 5, c'est dans l'air avec Yves Calvi. Mais sinon, il y a l'équipe sauvage.
Mathieu, juste une petite précision. C'est plus Yves Calvi, vous savez, qui présente C'est dans l'air. Ça fait un moment qu'il est parti.
C'est vrai.
On embrasse Caroline Roux qui présente l'émission tous les soirs et Axel de Tarlé. Et Axel de Tarlé au week-end, bien sûr.
Mais comment ça, Axel de Tarlé fait passer? Ah non, il fait plus. Ah oui, c'est vrai. Oh bah d'accord.
Yves Morousi ne présente plus le 20h non plus. Hein.
Il présentait le 13h, il n'a jamais présenté le 20h.
Cette émission devrait s'appeler La brochette des tocards.
Vous êtes nul en télé.
Aussi. Ah bah, ouais. Nul en télé, mais j'y connais rien.
Ah ouais.
Pour savoir quoi regarder ce soir à la télé sur les écrans, vous aurez compris, demandez plutôt à la dame. Merci d'avance.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipé sauvage. L'équipé sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Ah, je me frotte les mains. Il va bientôt être l'heure de s'affaler tranquillement sur le canapé. Un pot d'Agendas, cookies and cream dans une main, la télécommande dans l'autre. Encore faut-il savoir quoi regarder dans la jungle luxuriante des programmes. Mais moi, vous connaissez mes goûts. J'ai levé un coin du voile hier. J'aimais bien surtout regarder les matchs de beach volley, surtout assis, voilà, avec des chips, et regarder des matchs de beach volley féminin. Alors Eva, est-ce qu'il y a des matchs de beach volley prévus ce soir à la télé?
Vous êtes vraiment un goujat, mais vraiment un goujat. Comment voulez-vous qu'il n'y ait aucun sport qui a repris là? Il n'y a
c'est
pas
vrai.
De match de
beach volley. Même le beach volley. Il devrait y avoir une dérogation pour le beach volley.
C'est vrai. Ah, bah oui, parce qu'en plus, la distanciation sociale, elle est quasi. Ouais, non, pas vraiment.
Oui, pas dans les vestiaires, mais sur le terrain,
voilà.
Oui.
Bon, écoutez, non, là, ce soir, c'est une soirée placée sous le signe de la comédie, avec pour commencer un film totalement fou, diffusé à 21h05 sur W9 avec un acteur dont je vous ai déjà parlé cette semaine. Il s'appelle Fabrice dans la vie et dans le film. Il est fan inconditionnel de Johnny Hallyday.
Génial.
Au lendemain d'une bagarre, il se réveille à l'hôpital et surtout dans un monde où personne n'a jamais entendu parler de Johnny Hallyday. Son objectif désormais, ressusciter l'idole des jeunes.
J'ai dit que c'était génial.
Oui, ouais. En retrouvant celui qui n'a encore que Jean-Philippe Smet et le convaincre d'entamer une carrière de chanteur, Fabrice alias Fabrice Lucchini face à Johnny alias Johnny Hallyday, ça donne ça entre autres.
Oh, c'est pas vrai. Vous avez passé la nuit ici ou quoi?
J'ai beaucoup réfléchi. Je dois vous parler.
Ah non? Ce matin, j'ai pas le temps.
Non, c'est très très important, je vous en supplie.
Qu'est-ce que vous allez m'annoncer cette fois? Que j'ai raté une carrière de footballeur?
Je veux devenir votre manager. Je veux faire de vous celui que vous auriez dû être.
Oh non. Vous avez encore votre regard de cinglé.
Johnny sommeille en vous depuis toujours et ne demande qu'une chose pour être réveillé. Ensemble, on peut rattraper le temps perdu.
Voilà, la sortie en 2006, ce film de Laurent Tuel est une comédie à la fois drôle et touchante qui repose évidemment sur le face-à-face Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini. Alors, duo a priori improbable entre le bavard et le taiseux, on dirait une fable de La Fontaine d'ailleurs. Les prestations de Lucchini imitant Johnny, moi, me bluffent toujours autant. Pour la petite histoire, sachez que la BO est évidemment constituée de plusieurs titres de Johnny Hallyday, mais aussi de morceaux de blues et de morceaux d'André Manoukian, qui a fait une partie de la musique de ce film que vous aimez beaucoup, je crois, Mathieu.
C'est un film, effectivement, que j'ai découvert sur le tard et que je trouve excellent, puisque Lucchini, évidemment, connaît toutes les chansons.
Mais oui.
Il les porte en nous.
Il les vit, en plus, quand il les interprète.
Il lui explique comment il lui fait découvrir ses propres chansons, c'est génial. Deuxième choix.
Eh bien, c'est une pièce de théâtre. Oui, ça change un petit peu. C'est sur le site France.tv. C'est gratuit et c'est drôle. Le titre de cette comédie, vous allez comprendre pourquoi je suis allée la regarder tout de suite. Deux hommes tout nus. Alors, titre totalement raccord avec le début de la pièce.
C'est vrai qu'il y a des chaînes payantes pour ça.
Mais oui, mais non, mais là, c'est gratuit, figurez-vous. On est dans un appartement très bourgeois. Un canapé-lit est ouvert. On y retrouve deux hommes nus. Et apparemment, ni l'un ni l'autre ne comprend la situation.
Je vous fais éclater, Rio.
Monsieur Kramer,
qu'est-ce que vous
faites? Eh oh, putain, là!
Qu'est-ce que vous faites?
Je sais pas!
Arrête tes conneries, qu'est-ce que vous chez moi?
Je sais pas!
Qu'est-ce que vous là?
Quoi? On est chez vous ici?
Pourquoi t'es un poil? Pourquoi t'es un poil?
Je sais pas!
Et vous?
Ben oui, vous avez lui aussi, il est à poil. Vous avez sans doute reconnu la voix de François Berléand. Alors, vous ne le verrez pas totalement nu, en fait. Il est entouré d'un drap et il fait face à Sébastien Thierry, qui est aussi auteur de cette comédie dans laquelle vous retrouverez également Isabelle Gélinas et Élise Diamant. Alors, la situation est d'autant plus cocasse que, comme vous venez de le comprendre, les deux hommes se connaissent très bien, ils travaillent ensemble.
C'est un peu comme si on se réveillait.
Tous les deux, nus.
Chez vous ou chez moi,
ouais,
nus.
Voilà.
Là, ça
et sans savoir
problème.
Ce qui s'est passé. Donc, impossible de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et surtout que la femme de François Berléand va débarquer et va demander des explications. Et là, les deux garçons, comme ils ne comprennent pas la situation,
ils ne peuvent pas lui expliquer.
Et au lieu de dire, on ne sait pas, ils vont commencer à faire des mensonges, mais incroyables, mais les plus farfelus. C'est improbable, vraiment. Et alors, vous allez le voir, au bout de 30 minutes de pièce, on va se retrouver au début, c'est-à-dire qu'ils sont de nouveau tout nus dans le canapé-lit. Et c'est reparti pour un énième délire. Alors, derrière la comédie, c'est quand même très malin, parce que la pièce, elle évoque quand même la vérité au cœur du couple, l'usure du couple également, et plus généralement, les questions qui sont liées à l'identité. De quoi passer un très bon moment devant votre écran avec votre conjointe ou votre conjoint, ça sera encore plus drôle. Et c'est sur France.tv, ça s'appelle Deux hommes tout nus.
Encore des bons conseils signés Eva Rock, merci.
Europe 1.
Quand un correspondant à Lyon nous parle d'un tableau exposé à Oslo au cœur d'un mystère que tentent d'élucider des chercheurs grenoblois, c'est notre modeste contribution à la grande histoire du surréalisme. Jean-Luc Boujon, le Lyonnais qui a enquêté sur des grenoblois partis en Norvège, c'est juste après une nouveauté, Get Older, Rem sur Europe 1.
I read your lips on the subway when you were talking to your friend. Couldn't make out what you said, but it sounded like an argument. I was wondering if I could have looked you in the eyes, but I didn't dare. I wish I took your hand and showed you a way out of there.
Get older. Get Older, c'était Rémy, un peu le Ed Sheeran de l'été, me disait Eva, prophète peut-être.
Je lui souhaite, hein.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vieillir, c'est moche.
Exact.
Mais c'est dans la logique des choses pour nous, êtres de chair et de sang. Alors que pour un tableau, vieillir, c'est beaucoup plus rare. C'est l'incroyable histoire que nous raconte aujourd'hui Jean-Luc Boujon, notre correspondant à Lyon, qui nous emmène non pas à Oslo, comme il m'a dit, puisque ce n'est pas Oslo que ça se passe, le tableau vient d'Oslo, mais il a été rapatrié à Grenoble. Des chercheurs grenoblois se sont penchés sur cette toile. Sur le papier, c'est très bizarre, mais faites-lui confiance. La dernière fois, il avait subjugué notre invité Marianne James.
Mais moi, je veux absolument entendre Monsieur Jean-Luc Boujon pour avec sa membrane. Là, ça m'intéresse. Serge Ferrari.
Marianne veut voir ma membrane.
La membrane.
Alors Jean-Luc, on ne sait pas comment ça s'est terminé avec Marianne. Là, on n'a rien compris de votre sujet du jour. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'on va parler du tableau de Munch, le célèbre Le Cri. On l'a tous en tête. Qu'est-ce qui se passe avec ce tableau? Il vieillit prématurément, c'est ça?
Ouais, il se dégrade grave, on pourrait dire.
Tellement jeune.
Ce tableau, c'est l'un des plus célèbres et des plus chers du monde. Il y en a 5 versions et l'une de ces versions s'est vendue en 2012 à 120 millions d'euros. Donc, il y a un peu de l'enjeu. Et ce tableau, la version originale en tout cas, se dégrade gravement. En fait, les jaunes ont viré au blanc cassé. Alors vous, ça vous paraît rien. Nous et vous, on ne se rendrait compte de rien, mais pour une telle œuvre, ce n'est pas possible, ça en change complètement l'aspect. Et c'est un constat vraiment alarmant qu'ont fait le responsable du musée d'Oslo, où le tableau est conservé aujourd'hui, mais conservé sans être visible du public. Justement, à cause de cette dégradation, on ne l'expose plus, on n'ose plus le montrer, ce qui est quand même une grande perte. Du coup, une équipe de chercheurs italiens s'est penchée sur l'œuvre pour essayer de trouver la cause de cette dégradation, mais ils n'avaient pas toutes les données et ils ont fait appel Cocorico à l'équipe du synchrotron de Grenoble. C'est pour ça que je vous parlais de chercheurs grenoblois.
C'est quoi le synchrotron? On dirait un truc de science-fiction, Jean-Luc.
Ouais.
C'est un anneau géant qui émet des rayons X, qui est construit à Grenoble depuis les années 70. Et avec ces rayons X, ces lignes de lumière, on peut analyser extrêmement finement tous les matériaux, y compris les pigments de peinture. Et c'est ce dont on va avoir besoin ici.
Et contrairement à ce que j'annonçais dans le lancement, parce que je n'avais rien compris, le tableau de Munch n'est pas venu à Grenoble.
Non, on ne peut absolument pas le déplacer. On ne prend pas non plus le risque. Hein, les assureurs ne le voudraient pas. Donc, ce sont de minuscules fragments de peinture, des micro-prélèvements qui sont arrivés récemment à Grenoble et qu'on a observés dans la capitale des Alpes, au synchrotron, explique Marine Cotte, qui est chercheuse au synchrotron.
Pour vous donner une idée, la taille des prélèvements, c'est de l'ordre ou c'est plus petit que le diamètre d'un cheveu. Le prélèvement, on ne peut pas voir qu'il a été fait. Enfin, c'est vraiment le but. Hein. Il ne faut surtout pas que ça endommage l'aspect de la peinture. Les prélèvements sont vraiment petits. Quoi. Nous, on les observe sous microscope, mais sans microscope, c'est un tout petit point. Quoi.
Et alors, finalement, quelle est la conclusion des scientifiques? Qu'est-ce qui explique cette dégradation?
Eh bien, en fait, c'est l'humidité qui altère les couleurs et ça a son importance parce que ça va permettre de modifier ces conditions de conservation, explique toujours Marine Cotte.
À l'heure actuelle, il est conservé à 50% d'humidité, ce qui est vraiment le standard. Et là, avec l'étude qui vient d'être faite, eh bien justement, ça permet de dire aux conservateurs comment ils peuvent améliorer la conservation du tableau. Là, en fait, ils sont en train de construire un nouveau musée où sera transféré le musée actuel. Et sur la base de cette étude, ils sont en train de voir s'ils peuvent conserver les peintures ou en tout cas Le Cri dans des conditions, on va dire, un peu plus sèches, quoi.
Voilà. Et donc,
ouais,
peut-être
ça n'a pas l'air si compliqué quand même. Enfin,
un bon
dire...
Dyson pur and cool,
non,
et une bonne condition de...
Ouais, ça assèche l'air.
Non, mais il fallait en être sûr.
Ouais,
en fait.
Voilà,
on ne peut pas se permettre de faire des choses aux doigts mouillés, si je puis dire.
Ah oui, c'est le cas de le dire. Ouais.
Donc, fort de ces informations, c'est là l'enjeu, en fait. Peut-être que si on arrive à créer une pièce où les conditions de conservation sont bonnes, on pourra à nouveau voir ce tableau exposé. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir le voir, ou uniquement en reproduction, uniquement sur des couvertures de livres, etc. Donc, quand ce nouveau musée sera construit, dans quelques années, on pourra faire une pièce qui lui sera dédiée avec les bonnes conditions de conservation de ce tableau.
On ira tous à Oslo,
bah
j'ai bien compris. Bon, merci Jean-Luc. Et en fait, vous vous souvenez de la petite requête d'Eva?
Sexto, d'accord. Et tu vas en recevoir plein dans la journée.
Merci pour elle.
J'ai pas osé
pendant
la patience.
C'est un moment de l'émission que nos invités redoutaient, car ils savaient que nos questions risquaient d'être beaucoup plus longues que leurs réponses, surtout quand c'est Eva qui les posait.
Est-ce que vous avez eu des facilités ou en tout cas des possibilités de financement de tous vos films avec aussi... Toujours pareil, vous aviez ces financements-là ou ça a été plus compliqué?
Retour sur une interview mémorable, aujourd'hui celle de Mathias Malzieu, le leader de Dionysos, également cinéaste. À tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage, 16h-18h. Sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Certaines langues de vipère prétendent que si les stars aimaient tant l'Équipée Sauvage, c'est que c'était une des rares émissions où ils étaient reçus avec plus de cirage que chez Drucker. Franchement, il suffit d'écouter la critique assassine qu'avait faite ici même Fred Goati, notre expert musique, du dernier album de Mathias Malzieu, leader de Dionysos, pour comprendre que c'est faux.
Non, il y a des tubes en puissance, là. Il n'y a aucun morceau qui fait plus de 3 minutes et des poussières, c'est des morceaux assez courts. Petit côté Sgt Pepper dans l'ensemble, je trouve, le côté à la fois conceptuel et on peut sortir chaque chanson. Mais pas nostalgique, ça qui est fort. Pas nostalgique, pas revival.
On avance un petit peu ?
Oui, on avance un petit peu, par exemple, en réécoutant mon interview sans concession de Mathias Malzieu. Oui. C'était le 18 février dernier. On reçoit aujourd'hui Mathias Malzieu.
Il me connaît, ce chien. Il me connaît depuis bien longtemps.
Bonjour Mathias.
Bonjour.
Un mot déjà de l'album qui s'intitule Surprisier. C'est quoi un surprisier ? C'est un arbre ?
Ah, c'est marrant,
ça pourrait. Tu vois, ça me fait penser.
Ouais, hein, ça pourrait être un arbre et les fruits, ce serait des surprises à ouvrir, ça serait bien.
C'est un néologisme en tout cas, c'est très joli.
Merci. Bah, en fait, c'est un mot qui vient d'un petit poème que j'avais écrit quand j'étais en chambre stérile. Où je fabriquais pas mal de rêves pour la suite que je rêvais de pouvoir vivre à nouveau. Et du coup, c'est là qu'est venu le mot surprisier. Et c'est devenu comme un, voilà, ceux dont l'imagination est si puissante qu'elle peut changer le monde, si ce n'est la leur, ce qui commence déjà à être un début pas trop mal.
C'est pas mal.
Oh, ma sirène de salle de bain, dompteuse de canard en plastique, il faudrait bien que tu m'expliques pourquoi je me sens si bien.
Tu es en train de
Sauf quand je dis nouvel album, c'est pas juste un album en tout cas. C'est aussi la PO d'un film, Une sirène à Paris, film que vous réalisez avec notamment Nicolas Duvauchel et Marilyn Lima. Le prolongement également d'une expo photo et d'un roman intitulé également Une sirène à Paris. Vous êtes vraiment un artiste qui touche à tout, dans tous les domaines vous inspirent.
En fait, j'aime bien raconter des histoires. Donc après, c'est pas plus un concept que ça, c'est du désir. C'est du désir et de l'aventure. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à avoir envie de raconter cette histoire de personnage qui se croit immunisé face au sentiment amoureux parce qu'il a été brisé, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais lui mettre de pire et de mieux entre les mains à celui-ci pour qu'il se remette en question. Et je me suis dit, l'ultra femme pour un chanteur, c'est une sirène, parce qu'elle tue avec sa voix. Donc c'est exactement ce qui peut lui arriver de pire et de mieux. Ensuite, il y a eu tout ce contexte de la crue de 2016 qui m'a beaucoup amusé.
Ah, ça, c'était une source d'inspiration.
Ah oui, j'ai trouvé ça très poétique d'avoir des petits canards qui grillent des feux rouges, des voitures remplies comme des aquariums et que le marquage au sol plonge dans la scène comme dans un film de Miyazaki. Quoi. Il y avait un truc assez magique, un peu embêtant, mais quand même un peu magique. Et puis, on avait trouvé aussi un vieux silure pas très ragoûtant sur les berges échouées. Je me suis dit, si je mettais ma sirène à la place, j'avais déjà cette idée de relation entre ce personnage et la sirène, et je me suis décidé de la mettre à Paris à ce moment-là.
Dans le pitch du film, ce que vous racontez, ce qui est fou, c'est la densité. Alors, ouais. La densité poétique, c'est-à-dire que souvent on a une bonne idée, par exemple, beaucoup se seraient arrêtés à l'idée de la sirène. Ouais. Paf, c'est déjà assez rigolo, c'est féerique, tout ça. Mais vous, derrière, on sent que vous avez réfléchi à chaque petite chose dans le film, et c'est ça qui est prometteur.
Oui, en fait, je me suis amusé, tout simplement. Ça fait 4 ans que je vis en immersion totale là-dedans. C'est-à-dire que j'écris le livre en même temps que le script. Que les chansons.
Vous imaginez le film en écrivant le livre?
Ouais, j'ai vraiment fait les trois en même temps. Et du coup, les chansons de Dionysos, que vous avez entendues ouais. Là tout à l'heure, en fait, c'est les chansons de Gaspard.
Donc du film.
C'est comme si on avait fait un album de reprise d'un personnage imaginaire.
Dionysos existe depuis 27 ans. C'est une longévité très rare pour un groupe, encore plus rare pour un groupe de rock.
Oui.
C'est quoi le secret?
La passion. La passion, le fait qu'on s'aime un peu comme une famille, hein, c'est une espèce de tribu. Du coup, il y a une excitation. C'est pas comme faire un disque de plus ou faire de la musique, juste il y a une idée Dionysos derrière.
L'excitation, on la comprend, mais souvent dans les groupes, il y a des histoires de filles, des histoires de...
Enfin,
des disputes, des querelles d'ego aussi.
Bien sûr.
Ça vous est déjà arrivé ?
Non, en fait, on n'est pas toujours d'accord, et c'est le jeu du débat, mais c'est très démocratique dans le groupe.
C'est pas vous qui décidez tout de manière autocratique comme moi ici, par exemple.
Non, j'assume complètement mon rôle de capitaine de bateau quand même,
ouais.
Parce que j'arrive avec les chansons et tout, donc. Mais après, c'est des vraies chansons dionysoses dans la mesure où on les arrange ensemble, et que j'aime ça, c'est-à-dire que si je continue à vouloir faire des disques de Dionysos, c'est parce que je les aime humainement et artistiquement et que je me sens libre et que c'est toujours la grande aventure avec eux.
J'ai envie de dire la même chose pour nous, mais je ne suis pas sûr. Oui. Ben...
Est-ce qu'un autre des secrets de votre longévité tient pas justement au fait que vous arrivez à créer de ces univers incroyables qui tiennent qu'à vous, en fait? Parce que quand on parle du film, du disque, etc., on comprend bien que vous avez un univers à part entière et il n'y a aucun autre groupe qui crée ça.
C'est vrai que peut-être que ça a été naturel il y a une dizaine d'années de casser le rythme album, tournée, tournée, album, album, tournée. J'ai commencé à avoir envie d'écrire des nouvelles. Les nouvelles venaient des chansons, puis les chansons m'ont donné envie de faire des clips, puis les clips, des films. En fait, il y a toute une petite arborescence qui s'est créée comme ça, une chasse au trésor. Et j'avais l'impression de pouvoir me le fabriquer moi-même avec le groupe et avec tout l'univers autour.
Europe 1.
À suivre, c'est un moment d'habitude gai et rieur de l'émission, la chronique gastronomique d'Olivier Poul. Chaque jour, une recette simple et goûteuse pour épater vos proches. Moment rieur donc, sauf lorsqu'un chroniqueur indélicat en profite pour mettre un scud à cette malheureuse Eva.
Et alors, j'ai un cadeau pour elle, puisque j'ai la recette de cette tarte, qui va peut-être parler un peu à Eva aussi. Puisque...
Ah, c'est une quiche.
Dites donc J'étais outré. Nicolas Caro, pour pas le nommer.
Il a pu mettre un point jusqu'à la fin de la saison.
Ah, mais je ne sais même plus qui c'est.
Non, vous n'avez oublié. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Delice in extremis, la recette qui vous sauve la mise arrive juste après Thomas Dutronc. C'est si bon sur Europe.
C'est bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance, it means that it's so good. C'est si bon, so I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to own. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would, if you only would be my own, be my own for the rest of my day, for the rest of my day, I will whisper this phrase. My darling, c'est si bon.
C'est si bon, c'était Thomas Dutronc sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Comme je vous le disais tout à l'heure, la libido stimulée par les premières chaleurs du printemps, il arrive certaines nuits de pleine lune qu'Eva se réveille en sueur en hurlant.
Anissé ?
Mais N'ayant jamais été très porté sur la monogamie, il arrive aussi parfois qu'elle se réveille en sueur, en hurlant.
Pulse, 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 pulse.
C'est ça qui est bien avec les fantasmes. On n'a pas besoin de choisir. Lui, cette nuit, il a rêvé de cuisses bien charnues. Des cuisses de pata negra. Bonjour Olivier Pulse.
Bonjour les amis. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi?
Le rapprochement était pas judicieux. Enfin, c'est pas grave. Allez-y.
Non, même des cuisses de pata negra, c'est beau quand même.
Oui, mais il venait juste de parler de moi. Mais c'est pas grave. Allez-y.
Je vous convie à un mariage aujourd'hui.
Voilà.
Et vous?
Ouais, je vous convie à un mariage. Écoutez, monsieur Saucisse de Morteau va épouser madame Lantiverte du Puy. C'est pas beau ça? Lieu du mariage, une cocotte en fonte.
Oh, combien d'invités?
Quelques invités. Alors le premier invité arrive, alors c'est le beurre. Il s'installe. Il est tout de suite rejoint par deux autres invités, c'est Échalote et Carotte.
Mais ça va
tous
pas.
Deux coupés en petits morceaux qui les rejoignent dans la cocotte.
Avant, ils faisaient l'apéro après l'émission, maintenant
il le fait avant. Quoi.
J'ai les témoins.
Oui,
un verre
important.
De vin blanc et un verre de bouillon de volaille bien corsé, avec un petit bouquet garni. Les invités ont pris place dans la cocotte, on laisse mijoter pendant petite 5-6 minutes.
Ouais.
La mariée arrive, se pose là, les lentilles vertes du puits, évidemment par-dessus, même monsieur Saucisse de Morteau.
Tout en finesse, tout ça devant monsieur le curé, alors voilà. Que le nom n'est pas encore prononcé.
Et non. Et donc, durée de la cérémonie,
oula, oui.
45 minutes. À
c'est
couvert
pour
et
une
à
première,
feu.
C'est beaucoup.
C'est la cérémonie, Mathieu.
Donc après les 45 minutes, eh bien tout le monde est ravi évidemment. Les arômes de la saucisse de Morteau légèrement fumée se sont diffusés dans le plat. Les lentilles sont fondantes, mais en même temps encore un tout petit peu craquantes. Il n'y a plus qu'à passer au vin d'honneur avec le cousin du Beaujolais, Monsieur Morgon, qui vient arroser tout ça. Et je vous garantis un mariage fantastique et une recette hyper simple à faire.
Dites-moi, on prend la température, vous savez, à l'accueil du bâtiment. Est-ce qu'on a pris votre température?
Oui, ils m'ont laissé passer.
Ah oui, d'accord. Comme quoi, ça marche pas très très bien cet appareil.
Leur appareil est complètement dysfonctionnel, comme Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les jours dans l'équipée sauvage. Et la recette, votre recette, parce que alors, votre recette, on la retrouve en podcast.
Non mais, et en même temps, vous remarquez que si vous réécoutez, il y a une vraie recette dans tout ça.
Oui,
oui, oui, on a bien compris.
C'est sur Europe.fr.
Europe 1.
Quatre journalistes. Quatre. Et une seule couronne. Équation compliquée, qui parfois débouche sur des comportements antisportifs. Comme lundi, quand Anne Le Gall a compris qu'elle avait perdu, elle s'est alors levée en faisant un doigt d'honneur à ses concurrents.
Et l'autre, elle leur a craché dessus.
Espérons qu'on n'en arrive pas de telles extrémités aujourd'hui.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Une fois de plus, ils ont tout donné au service de votre culture G. L'instant fatal est arrivé pour nos quatre journalistes en compétition. Qui sera élu chroniqueur du jour? C'est l'heure du quitte ou double. Ils ont chacun 10 secondes pour vous convaincre de voter pour eux. Tous les moyens étant bons, certains vont très loin, de plus en plus loin.
Il y a certains qui envoient la photo de leur sexe.
On ne donnera pas de nom, Eva. Même si franchement, Jean-Philippe, ben, j'aurais pas dit. Bref,
ouais.
Fala Kastri, pourquoi voter pour vous cet après-midi?
Parce que quand même, j'ai osé vous dire que le caca de baleine, c'est super écolo.
C'est vrai que c'était audacieux, effectivement.
Ouais,
et
voilà.
Parler de contribution fécale à une heure de grande écoute, c'est aussi un pari qu'on peut saluer.
Voilà. On ne peut pas en dire autant de celui des humains, donc voilà, le caca de baleine, c'est super écolo.
Ça sera l'objet d'une autre chronique. Jean-Luc Bougeon, pourquoi voter pour vous et votre tableau qui était à Oslo, puis ensuite à Grenoble? En fait, il n'a jamais bougé d'Oslo et c'est des chercheurs italiens qui s'en sont occupés, j'ai rien compris.
Non mais, si vous voulez sauver l'un des chefs-d'œuvre de la peinture mondiale, le cri d'Edouard Munch, votez pour moi, ça vaut le coup et puis ça ne vous coûtera pas une thune en plus.
C'est vrai. Alors moi, ça me ferait une bonne idée cadeau, ça, pour la fin de saison pour Eva. C'est estimé à combien le cri de Munch?
120 millions d'euros.
120 millions d'euros, ok, j'appelle mon banquier, puis on voit ça.
Voilà, Jean-Philippe. En timbre, là, vous savez, ça ira
ça
bien.
Ça suffira bien, ouais, bien sûr. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous?
D'habitude, c'est Frédéric Goati qui fait le jazz, mais manifestement, mon ami et adversaire est en dessous de tout cette semaine. Donc,
vous êtes obligé.
Fallait bien que je m'en occupe. Jimmy Cobb, quand même, un des plus grands batteurs de l'histoire du jazz.
Et l'occasion de réécouter Kind of Blue. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous et vos langoustes, même pas avec de la maillot?
Langoustes vivantes. Parce que pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir le cri de Munch à 120 millions d'euros, moi j'ai le cri de la langouste qu'on entend à 3 km.
Pas mal.
Et qui est gratuit et qui est beau et qu'on peut apprécier dans
le
la nature.
Pas mal.
La langouste. Ouais. Eh bien écoutez, je vais dire que je suis un peu perplexe. Je ne sais plus trop pour qui voter, mais je pense que je vais voter aujourd'hui pour Fala Kastri.
Ah.
Parce que me parler des excréments de baleine et réussir à m'intéresser avec ça, c'était fort. C'est un point pour Farah. Eva.
Ah.
Il y a un mot magique qui a été prononcé dans une des quatre chroniques, qui est un de mes mots préférés de la langue française, qui est le verbe striduler.
Vous êtes
des cigales, voilà. Donc je ne peux que voter pour le cri de la langouste qui stridule.
Merci.
Voilà.
Très bel argumentaire.
Merci.
Les auditeurs qui vont décider. Et pas que nous disent les auditeurs.
Non, pas du tout, parce que c'est encore Romain Causer qui doit voter et
mais
que vous oubliez tous les jours.
Tout le temps Romain Causer. C'est parce que
je vais vous dire pourquoi.
C'est parce que la vitre du studio qui sépare le tuyau de la régie est trop opaque.
Ouais.
Il faudrait qu'elle soit plus claire afin que je le voie mieux.
D'accord.
Et son rire réjouit. Romain Causer a le droit de vote. Oui, Jean-Philippe Ballet.
Je n'oublie jamais, moi, Romain Causer. Voilà, Romain, tu votes pour qui tu veux. Vas-y.
L'opportuniste. Alors, Romain Causer.
Alors, Mathieu, je suis obligé de voter pour Anne Le Gall. Encore une fois, j'ai adoré son quiz.
Comme quoi, la flagornerie ne paye pas mon gentil.
C'est Romain qui, déjà?
Je sais pas. Les auditeurs vont trancher, Marc.
Ah, le cri de la langouste.
Le cri de la langouste, Anne Le Gall, qui remporte la 182e journée de l'équipe et sauvage. Et qui, à mon avis, même si je n'ai pas le classement sous les yeux, parce que nous sommes semi-professionnels.
Je me demande si elle n'est pas première.
Elle repasse, oui, on me le confirme. Elle repasse à la première place dans la dernière ligne droite du championnat. Anne Le Gall, même. Oui, je m'excite un peu trop. C'était 182e journée de l'équipe sauvage. Je remercie mes équipiers du jour, Eva Rock, Anne Le Gall, Farah Kessri, Jean-Philippe Ballas, Jean-Luc Boujon et Olivier Pouls, Romain Causer et Christophe Pierrot en régie. L'équipe sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Sébastien.